Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, y a-t-il un risque de bordel informatique relié à l'intention du ministre Christian Dubé de rendre plus fluide le partage d'informations dans le réseau de la santé? C'est ce que croit le correspondant parlementaire Nicolas Lachance, que l'on reçoit aujourd'hui et qui a beaucoup écrit sur les problèmes des grands projets informatiques du gouvernement du Québec. Dans un deuxième temps, il analyse un nouveau phénomène que l'on pourrait résumer par la formule « à chaque jour suffit sa prime », qui illustre bien la gestion de la pénurie de main-d'œuvre par le gouvernement Legault. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On est actuellement en session intensive. Ça achève là, la session parlementaire. Et on va tout de suite à l'analyse sportive de la période de questions parce qu'il y a eu une période de questions en ce vendredi. Ce qui n'arrive qu'en session intensive. Commençons par le recul du jour. Il y a quelqu'un qui a patiné à reculons.
Exact. Dominique Anglade, jeudi, a affirmé que Christian Dubé et François Legault, les avaient nommés, étaient en partie responsables du drame qui est survenu en Abitibi, alors qu'un individu, M. Richard Genet, qui avait besoin de soins, l'urgence de Sainte-Terre étant fermée en fin de journée, a attendu. Il a appelé le service d'urgence durant la nuit. Bref, monsieur est décédé, malheureusement, à la suite de tout ça. Et donc, elle avait été... Moi, on s'en était parlé. Je trouve que c'est toujours une ligne à ne pas franchir. Elle avait comme associé vraiment directement la responsabilité de François Legault, Christian Dubé, au décès. Et à noter que Québec solidaire et le Parti québécois n'avaient pas été aussi loin. Et aujourd'hui, parce que là...
Presque. Joël Arsenault était passé proche.
Passé proche, mais quand même. Et là, alors que la PDG du CIS de l'endroit a affirmé hier qu'on ne pouvait pas faire de lien direct cause à effet là, entre la fermeture de l'urgence et le décès de M. Genet...
Elle avait un certain aplomb, cette PDG-là, j'ai trouvé.
Et moi, j'ai apprécié la conférence de presse qu'ils ont tenue avec aussi... il y avait celui qui coordonne les transports d'ambulances. Et j'ai trouvé que ça avait été très clair, dans le fond, ce à quoi on avait cité hier par les autorités de l'Abitibi. Et donc, Dominique Anglade a été requestionnée ce matin. Et là, elle a un peu changé le discours. Elle essayait de réécrire ce qu'elle avait dit la veille. Là. Bon, on n'est pas dupes, mais quand même, bon, au moins, là, elle parlait davantage là, de la responsabilité quant à la fermeture de l'urgence, pas en lien directement avec le décès. Quoi qu'il en soit, François Legault a été bon joueur parce qu'il l'a quand même souligné qu'elle ne portait plus la même accusation. Alors, on écoute ce qu'il a dit en début de période de questions, M. Legault, au Salon Bleu.
Content de voir qu'elle a reculé sur ma responsabilité personnelle dans le décès de M. Genet. Je ne la reconnaissais plus hier dans ses propos.
Donc, M. Legault qui dit « elle a reculé dans ma responsabilité personnelle », il a apprécié le tout.
Deuxième élément d'analyse, l'invitation surprise du jour.
As-tu déjà vu ça, Antoine? Un élu qui invite une formation d'opposition à porter plainte contre lui au commissaire à l'éthique.
Il est tellement habitué. Il a tellement créé d'emplois dans chez ces commissaires-là.
Alors, oui, on parle de Pierre Fitzgibbon.
On peut l'écouter peut-être. Hein?
Oui, on va écouter Pierre Fitzgibbon qui a répondu à Gaétan Barrette et on va expliquer par la suite.
La question qui se pose, c'est quoi le guide? Il a été utilisé dans 10 cas. A-t-il été utilisé dans Lumen Pulse? Et on sait pourquoi. Ce faisant, le ministre considère-t-il que Lumen Pulse est une entreprise stratégique au Québec? C'est ça qu'on veut savoir. Va-t-il répondre?
Lumen Pulse est une très belle compagnie, effectivement. Alors, je voudrais conclure en disant que si le député médecin pense qu'il y a eu mauvais agissement de la part du ministre, je lui suggère d'aller voir le commissaire à l'éthique, le commissaire ou l'lobbyiste, ou la directrice générale, parce que tout a été divulgué à la VG. Et tous les cas qui ont été acceptés par Investissement Québec étaient justifiés parce que quelqu'un a porté le jugement que l'entreprise qui a reçu le prêt le méritait, ce que le ministre a confirmé.
Alors voilà, c'est une invitation à parler à tous les commissaires.
Parce que Gaétan Barrette et Monsef Deragy, avant lui, posaient des questions sur Lumen Pulse, notamment une entreprise. On veut savoir si dans les 10 entreprises qui ont obtenu de l'aide financière et qui ne respectaient pas les critères des programmes d'aide, est-ce qu'il y a Lumen Pulse? Parce que dans cette entreprise-là, il y a celui qui est fiduciaire de Pierre Fitzgibbon pour ses actifs. Comme il est ministre et qu'il ne peut pas...
Il n'y a pas l'épouse aussi de Christian Dubé qui était dans cette entreprise-là. Dans le temps, on avait enquêté en 2018 là-dessus, effectivement.
Bon, alors tu vois, M. Fitzgibbon a esquivé la question. Il n'a pas voulu répondre directement. Et Gaétan Barrette qui est revenu à la charge et donc Pierre Fitzgibbon qui va ici. À noter aussi en passant que j'ai trouvé M. Paradis, François, le président un peu frileux parce qu'il refusait le terme récidiviste. Mais... dans ce cas-ci, c'est un fait, dans le sens que M. Fitzgibbon est un récidiviste en matière de blâme de la commissaire à l'éthique. Gaétan Barrette a utilisé ce terme-là et M. Paradis lui a demandé de le retirer. Alors, j'ai hâte de voir, est-ce que les...
Donc, ça veut dire qu'il vient de le mettre au fameux lexique ouais, des mots
moins
interdits.
À moins qu'il l'était déjà, mais honnêtement, je vois mal comment le terme récidiviste peut être... dans la liste des termes interdits, en tout cas. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que vraiment les libéraux vont passer de la parole aux actes et est-ce qu'ils vont déposer une plainte à la commissaire à l'éthique, est-ce qu'il y aura enquête. Ça va être vraiment à surveiller la semaine prochaine.
En tout cas, c'est un dossier intéressant parce que si les règles étaient complètement élastiques, comme le dit M. Pierre Fitzgibbon, ça veut dire qu'il y a bien des entreprises qui s'étaient dit, en regardant les critères de base, bon, on n'est pas éligible, qui auraient pu essayer, qui auraient pu avoir des sous. Hein? C'est ça qui est frustrant pour plein d'entreprises au Québec. C'est ça, quand les règles sont trop élastiques, M. Fitzgibbon prête flanc, encore une fois.
Oui, parce que on l'avait dit dès le départ, c'est que sinon, c'est pas juste. T'sais, c'est des entreprises qui savaient qu'elles pouvaient avoir comme un passe-droit grâce au pouvoir discrétionnaire du ministre. Bien là, les autres le savent pas, ça marche pas.
Troisième élément d'analyse, le buisson ardent du jour.
Le feu brûle toujours, donc, entre Sonia Lebel et les syndicats des travailleuses des garderies. J'avais l'impression en début de journée que peut-être qu'il y avait du positif parce qu'on a été convoqué après la période des questions par Sonia Lebel qui disait avoir eu des échanges en avant-midi avec les syndicats. Et
qui avait déposé comme une bonification
voilà,
des offres.
C'est ça, on constatait qu'il y avait une bonification. Donc on se disait, ah ben parce qu'il manque tellement pas grand-chose là, pour arriver à une entente. Là. Mais non, pas du tout.
Benoît Dutrisac n'arrête pas de dire, il manque 6 millions dans le fond.
Ouais,
on vient d'en promettre combien en petites primes là, dans la mise à jour budgétaire? C'est quoi, 700 millions? C'est vrai que...
Oui, puis on parle d'un budget de 120 milliards au Québec. Là, donc, ouais. C'est sûr que 6 millions peut paraître d'une goutte d'eau. Mais malheureusement, c'est ça, pas du tout. Sonia Lebel est arrivée après la période de questions en disant, nous, on a bonifié. Là, si on résume, là, le gouvernement a fait un pas. Il est à 9 % d'augmentation salariale pour les employés qui ne sont pas des éducatrices, qu'on appelle les employés de soutien, comme des cuisinières ou des concierges. Et donc, il passait de 9 à 11 % pour ces gens-là. Mais Sonia Lebel prétend que les syndicats, eux, ont aussi augmenté leurs demandes.
C'est comme si à chaque fois qu'ils acceptaient les offres, ben les syndicats demandent plus.
Oui.
Mais tu sais, c'est énervant aussi, là, suivre une négociation. On ne sait jamais qui donne parfaitement la bonne information.
Exact. C'est ce que prétend Sonia Lebel, là, que eux sont passés de 11 à 13. Pourtant, moi, il me semble que j'avais entendu aussi 13 % dans le passé pour les augmentations pour les employés de soutien.
En tout cas, elle est complètement exaspérée. On peut l'écouter.
Oui.
En toute transparence, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais plus ce qu'ils veulent parce que si j'avais négocié comme ça, comme procureur de la Couronne, là, puis que je montais ma demande de sentence à chaque fois qu'un avocat de la défense m'offrait un plaidoyer, j'aurais passé mon temps à faire des procès. Là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans leur stratégie.
Toi, Rémi, est-ce que tu comprends?
Bien, je comprends que c'est compliqué. Et preuve que plus rien ne va, c'est que la FIPEC, CSQ, a annoncé donc que dès jeudi prochain, c'est la grève générale illimitée aussi pour les éducatrices affiliées à la CSQ. C'est déjà le cas pour les syndiqués de la CSN. Donc, écoute, Je suis un peu découragé de ça. Je pensais vraiment qu'on arriverait à une entente cette semaine. Je me mets à la place, moi, c'est plus mon cas, mais je me mets à la place des pauvres parents qui n'ont pas de service. Et en même temps, on est tous très sympathiques à la cause des éducatrices pour lesquelles on veut un rattrapage salarial, mais le rattrapage pour elles, il est là. Donc, il me semble que je trouve ça un peu étonnant là, que ce soit aussi long avant de terminer le dossier.
Dernier sujet, Rémi, le lampion du jour.
Oui, j'aimerais allumer un lampion.
Ah bon?
Parce que Christian Dubé a déposé un projet de loi ambitieux, très important, je pense nécessaire. Monsieur Dubé veut faire...
Complexe, Rémi.
Oui, mais M. Dubé veut faire atterrir le réseau de la santé au 21e siècle et faire sorte qu'on ait accès nous-mêmes à nos données de santé, que les médecins, peu importe l'établissement où on se trouve au Québec, aient accès à notre dossier santé, à nos résultats de prise de sang, aux médicaments qu'on prend, etc., etc. Et que les établissements, eux aussi, donc, puissent avoir partagé ces informations-là, que les médecins puissent le faire. Et pour arriver à ça, ça va prendre...
Puis aussi, il faut dire, c'est vraiment la première vague, il manquait d'informations. C'est ça qu'on comprend. Donc,
oui.
Il dit qu'on... Grâce à ce projet de loi-là, il va réussir à faire en sorte que l'information va circuler.
Exact. Mais pour arriver à ça, ça prend comme une espèce de méga plateforme informatique, on comprend. Et ça prend des années à développer.
Ça pourrait s'appeler SAGIR. Oh, oups.
Non.
Tu sais quel est le surnom de SAGIR?
SAGIR.
Oui.
Oui.
C'est, grand projet informatique.
On avait travaillé là-dessus, oui. Les spécialistes ont dit ça prendrait quelques années. On a dit 5 ans, là, ça c'est comme un minimum. Et M. Dubé ne veut pas attendre ces années-là. Donc là, il demande à sa gang, je veux dire ça comme ça, de se débrouiller pour connecter des systèmes qui existent déjà et faire en sorte qu'on y arrive graduellement sans attendre le véritable, le vrai système informatique. Oui, j'ai dit véritable 2 fois. Mais donc... Je pense que, tu sais, il faut y arriver. Ça va être complexe. Ça ouvre la porte à du bordel informatique parce qu'à court terme, quand on va essayer de connecter des systèmes qui, en théorie, ne doivent pas nécessairement se parler, ça va être dur. Mmh. Et ça se peut que ça chire, justement, comme pour faire référence à ce qui s'est passé avec SAGIR. Donc, projet informatique, c'est toujours complexe, mais au moins, c'est comme si M. Dubé posait la première pierre pour arriver à ce qu'on rende permanent aussi la situation qu'on a commencé à voir, là, que M. Dubé a en main les informations, peu importe là, les établissements, ce qui se passe, la situation. L'idée aussi, c'est que...
On est en une urgence sanitaire, peut-être que c'est ça qui aide à la circulation de l'information. Il y a certaines règles de protection
qui sont levées. Oui.
Puis là, on veut que loi, ça devienne permanent.
On veut rendre ça permanent et faire en sorte que, pas juste pour la gestion de pandémie, mais que par la suite, pour réduire les délais d'attente, pour des chirurgie, pour la gestion des urgences, qu'on ait vraiment comme toutes les données qui vont permettre au ministre de prendre des meilleures décisions. Donc, alors, c'est pour ça que ça prend la foi, là, parce que c'est compliqué et les systèmes informatiques...
C'est comme quand Jacques Demers voulait gagner donc un match et puis il allait faire quoi, une neuvaine à Saint-Anne-de-Beaupré.
Oui, il était pieux, hein,
oui.
Jacques Demers. Donc,
oui. Ancien entraîneur du Canadien et ancien des Nordiques aussi.
Brièvement, oui, je pense en début de carrière. Alors, je suis peut-être un peu moins pieux que Jacques Demers, mais je vais quand même mettre tout ce que j'ai de
Stoneham, t'as fait une église là où tu pourrais aller.
Oui, c'est ça. pour que ça marche et qu'ensemble, on a un réseau de santé plus performant.
Merci, Rémi Nadeau. Puis on se reparle lundi. Demain, tu travailles.
Oui, c'est congrès du Parti québécois, congrès d'orientation avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Et on va voir les militants du PQ, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cuisine.
C'est le dernier congrès.
D'une série de 5, en fait, incluant le Parti conservateur du Québec.
Alors, bonne fin de semaine.
Au revoir.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé, qui l'ont passionné. Aujourd'hui, c'est au tour de...
L'anniversaire de Nicolas.
Et bonjour Nicolas Lachance.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
C'est moi ça.
De quoi nous parles-tu aujourd'hui, mon cher Nicolas?
J'aimerais commencer avec toi sur le sujet de la pénurie de main-d'œuvre.
Ah oui?
Je me suis promené un peu dans les corridors cette semaine et j'ai eu accès à quelques points de presse sur la question, quelques communiqués aussi qui nous ont été soumis. Et j'appellerais ça des bourses et des primes. Okay. J'ai l'impression que le gouvernement, en ce moment...
Chaque jour, il y en ajoute une.
Il y en ajoute une, il y en apparaît une autre. Il gouverne en primes et en bourses.
C'est bon.
Écoute, ça va quand même loin. C'est à se demander si le gouvernement ne s'approche pas de la gratuité scolaire dans certains cas.
C'est vrai. Même le salaire scolaire.
Le salaire scolaire.
C'est vrai.
Et... Bon, il y a six grands axes que le gouvernement semble vouloir couvrir, là. Donc, on parle de l'informatique, la santé, l'éducation, bref, et ce qui tourne autour de ça.
C'était dans la mise à jour, notamment, hein, cette idée qu'on va payer les gens pour étudier dans certains domaines où il y a vraiment rareté ou pénurie, on ne sait jamais quoi dire.
Exact. Et cette semaine, surprise,
ouais.
Si quelqu'un est sur le chômage et nous écoute,
oui.
Et qui n'est pas allé à l'école depuis 2 ans, pourrait être payé 475 $ par semaine pour retourner à l'école.
Bon.
Et en plus,
quelqu'un,
il y a
quelqu'un qui ne travaille pas aujourd'hui, là, de nos jours, là, il ne veut pas.
Il ne veut pas. Ça, c'est vrai.
Excusez-nous.
Mais oui. Ça pourrait l'inciter à retourner sur les bancs d'école parce qu'en plus de, cette forme de salaire qui représente le salaire minimum, là, c'est ce que le premier ministre nous a expliqué, il y a aussi droit aux bourses. Donc, s'il retourne à l'école dans un programme universitaire, par exemple, on parle de 2500 $ par session. Donc, ça monte pour une année complète à 30 000 $.
Caroline.
Donc, si on revient à 2012, là, avec la crise étudiante,
oui.
On retrouve un peu cette essence-là de gratuité scolaire. Par contre, on oublie un peu les autres. Hein? Le gouvernement, en ce moment, est en mission sur
oui.
Concernant... des secteurs bien précis. Des
c'est
secteurs...
limité.
Exact, c'est très limité. Mais en même temps, on répond à un besoin. Un besoin qui est criant dans le réseau, dans le système.
Et on l'a vu à Sainte-Terre, en tout cas.
On le voit à Sainte-Terre.
Oui.
Et
je fais référence, évidemment, à ce cas là, de M. Genet, qui est décédé, entre autres parce qu'il y avait des complications liées au fait que l'urgence était fermée parce qu'il manquait d'infirmières.
Il manque d'infirmières, exactement. Est-ce que c'est ça la réelle...
Oui.
Bon, on peut se poser la question. Il y aura enquête du coroner, finalement,
voilà.
Dans ce dossier.
Les oppositions s'opposent, mais dans ce cas-là, là, des primes qui sont annoncées... pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, as-tu trouvé que les oppositions avaient beaucoup de choses négatives à dire?
Ils sont plutôt favorables.
Ouais, hein?
Personne n'avait de réelles critiques. On se posait des questions sur l'application de tout ça, mais même Québec solidaire, qui je m'attendais à ce qu'ils nous disent « on aimerait que ça soit équitable pour tous, peu importe le domaine d'études », n'est pas allé là. Mmh. A applaudi finalement les primes et les bourses cette semaine.
C'est quand même incroyable, la semaine de Québec solidaire. D'abord, tu as eu la fin de semaine où le Parti libéral du Québec s'est fait dire constamment qu'il était devenu le nouveau Québec solidaire, ce qui a fait rire Gabriel Nadeau-Dubois. Puis ensuite, il y a cette idée là, de gratuité scolaire et même de salaire étudiant.
On pourrait même...
On dirait que c'est leurs idées qui se... arrive un peu comme Amir Kadir l'a écrit récemment dans nos pages. Là. On riait de nous il y a 10 ans, mais là, il y a bien des choses dont on parlait qui se réalisent.
On pourrait même parler de la motion sur la culture de l'annulation.
Ben oui!
Imagine, Antoine, Québec solidaire a voté avec la CAQ dans ce dossier, mais pas le Parti libéral du Québec.
C'est vrai, ils sont encore plus woke.
Écoute, il y a un changement complet de paradigme ici.
Bien, deuxième sujet maintenant. Et je suis content que tu l'abordes, Nicolas, parce que tu es un peu le bordel informatique incarné.
Depuis quelques années, oui.
Oui, c'est ça. C'est un de tes sujets de prédilection. Puis là, en première partie de l'émission, Rémi nous a parlé du projet de loi qui a été déposé de Christian Dubé, le ministre de la Santé, sur la fluidité de l'information dans le système de santé. Et il nous a dit qu'il y a une possibilité de bordel informatique. Quelle est-elle, cette possibilité ou ce risque de bordel informatique?
Mais en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on a eu un petit briefage technique avant...
Briefage.
Briefage technique avant le point de presse. Et je nous ramène en février dernier. En février dernier, j'ai fait une entrevue, Antoine, avec le sous-ministre de l'époque qui n'est plus là, Luc Bouchard, et qui il me présentait le dossier santé numérique. Oui. Donc ça, c'était un grand dossier. Lui, il appelait ça le cœur, le futur cœur du réseau de la santé, okay. Où il y aurait un grand lac de données dans lequel on pourrait aller piger là-dedans. Et il soutenait que le DSQ, le dossier santé Québec, est désuet, tout ça, puis qu'il fallait enlever de la structure qu'on n'a jamais été capable de faire parler ces machines-là, tous nos 9000 projets informatiques dans le réseau de la santé. Il n'y a rien qui a été... On n'est pas capable de les faire communiquer les uns envers les autres.
OK. Donc, et c'est peut-être ça, le projet... Est-ce que c'est ça?
Non.
L'obligation, exactement, dans un projet de loi, de faire en sorte que tous ces systèmes se parlent, non?
C'est ce que je croyais. C'est ce oui. qu'on pensait. C'est ce que je pensais qu'on allait nous présenter aujourd'hui. Mais c'est vraiment... Tout le projet de loi était vraiment anglé sur la législation, sur « oui, alors on va transmettre ces données-là de ministères et organismes, de la RAMQ au ministère ouais. et blablabla bla, ». Bla. Mais je comprends qu'on recule sur ce projet informatique pour l'instant.
Ah bon? Et là, le projet qui t'avait été présenté là, d'une espèce, tu as utilisé la métaphore du lac.
De données.
Un lac de données.
Dans lequel on pêche okay. des données à l'aide de notre... À grand coup de filet, peut-être aussi.
Oui, c'est ça.
Mais on recule pour l'instant là-dessus, sachant que ça va être trop long avant d'y arriver.
Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé, Dubé?
Bien, il nous a dit que sur le plan technique, pour l'instant, il a demandé à son nouveau sous-ministre, qui a été nommé cet été, mm-hmm. de revoir une façon pour que on puisse communiquer avec ce qu'on avait déjà. Ah. Donc, en gardant cette désuétude, ce qui est un peu particulier, donc on va transformer la loi.
Ça veut dire que c'est
condamné à l'échec? Est-ce qu'il y a matière à ce qu'il puisse y avoir débordement, des risques dans le futur? Parce qu'on transforme la loi. On va permettre aux gens, au ministère en ce moment, d'avoir accès à toute la donnée, okay. de se la transférer sans qu'il y ait d'intervention,
ouais.
mais on n'est pas prêt encore sur le plan informatique. Donc, j'ai des craintes personnellement,
okay.
mais on nous promet que tout devrait bien aller. Qu'on est en train de trouver une façon de faire qui va nous permettre d'aller déjà de fournir plus de données et que ça soit sécuritaire. Mais on admet là, que sur le plan technique, on n'est pas encore prêt à accueillir ce que la législation va nous permettre de faire.
Mm-hmm.
Donc, est-ce qu'on fait les choses dans le bon angle?
Mm-hmm. C'est une...
Monsieur Dubé semble y croire.
Oui. Et ça fait des années qu'on est capable de consulter des données très sensibles, les données bancaires. Et je veux dire, ça fait depuis les années 90. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est si difficile de consulter ces données de santé. Là, le dossier Santé Québec, on est capable de le faire, oui. mais là, tu me dis que ça va être...
C'est ce qu'on garde, finalement. On va le garder,
finalement. Ah oui, c'est vrai. C'est l'autre, c'est le sous-ministre dans son projet de lac là, qui voulait...
Je vais te citer oui. Luc Bouchard, okay. en février 2021.
Oui.
On est dans la même année. La technologie n'était pas la bonne. OK? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Un manque de vision commune. C'était un peu dû aux technologies qui existaient à l'époque. Il y a 10 ans, on n'était pas là. Bon, dossier Santé Québec, c'est de ce projet-là qu'on parle.
Oui.
Donc, depuis, le réseau est passé de 927 à 34 établissements, mais tous ces systèmes-là sont restés.
OK.
C'est ça, puis là, c'est resté un je le cite encore, c'est resté des systèmes qu'on essaie de faire fonctionner ensemble. Et là, ils tiraient la plug là-dessus. On était en train de préparer des appels d'offres pour trouver ce nouveau nuage, ce dossier santé numérique qui devait être révolutionnaire, coûter près de 3 milliards. Donc, depuis un an, on travaille là-dessus. Okay. Il y a de la documentation qui a été créée par les fonctionnaires. Et là, on met ça sur la glace et on paye un intermédiaire pour essayer de soutenir le DSQ et ce qui est déjà en place. C'est la demande du ministre.
Oui.
C'est de faire avec ce qu'on a pour accélérer les choses.
OK. Puis pendant ce temps-là, on a un autre ministre qui nous parle de citoyenneté numérique.
Hein, oui.
Éric Kerr.
C'est supposé se fusionner tout ça ensemble.
OK.
À terme.
À terme les données en santé, les données...
Citoyennes.
Toutes nos données citoyennes liées à l'État, dans le
fond. Oui, l'État civil, tout ça.
OK.
Notre permis de conduire, donc la RAMQ, la SAQ. Tout ça, à terme, on devrait avoir un seul point de rencontre.
C'était ça, le lac?
C'est un lac de données.
Non, mais est-ce que c'était bien ça?
Ben, en santé, il était à part de ce que ouais. Ce que M. Kerr prépare. Là. Donc, okay. On prépare beaucoup de choses qui doivent, au final, se réunir un jour, peut-être sur une seule plateforme, un seul interface.
Okay.
Hein? Est-ce que c'est trop compliqué?
Non.
Un seul interface où on pourra rentrer, avoir accès sur notre téléphone cellulaire, concernant tout ce qui concerne nos propres données. Puis, santé et citoyenneté, pour l'instant, c'est des projets qui se font séparément. Là.
OK.
Le ministère de la Santé a un énorme pouvoir en termes de technologie.
Oui.
Énorme.
Mm-hmm.
Et continue de le faire. Mais bref, il y a matière à réflexion. Est-ce qu'on recule?
Très bonne question. Un peu inquiétant. Dernier sujet qui t'a occupé cette semaine, Nicolas, c'est cette espèce de divergence de vue entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, on revient à lui, mais aussi le premier ministre.
Oui, premier ministre qui, en début de semaine, là, lundi, a affirmé qu'il souhaitait des rassemblements de 20 à 25 personnes pendant le temps des fêtes.
Oui.
Donc, ça a surpris un peu tout le monde. Hein. On s'est dit, est-ce qu'il fait la même erreur que l'an dernier?
Au moment où le nouveau variant arrive.
Oui. Exact. Et en
puis
point
le ministre
de presse,
de la Santé, lui.
Ben, en point de presse, M. Dubé, avant-hier, est arrivé en nous disant bon, c'est 1200 cas aujourd'hui, il y a une hausse des hospitalisations et qu'il n'aimait pas ça.
Ouais.
Et que ça l'inquiétait, finalement. Et que contrairement au premier ministre, qui bon, comprend que son premier ministre pense aux familles, veut leur faire plaisir, mais lui, il dit qu'il faut
lui
attendre.
Qui a annulé Noël l'an passé.
Donc, on a senti est-ce qu'il joue un jeu? Est-ce que c'est prévu?
Il souffle le chaud et le froid.
Ouais. Hein, le bon policier et le mauvais policier.
Oui, c'est ça.
Parce que malgré cette conférence de presse-là de M. Dubé en après-midi, où mm-hmm. il est venu signaler ses inquiétudes, qu'il voulait encore voir les tendances avant de se prononcer, laisser la santé publique aussi se prononcer sur ce qu'on pourra faire à Noël, en fin de journée, M. Legault s'est présenté à Lévis dans un centre de vaccination et a réitéré son souhait en disant que, de son côté, les hospitalisations ne l'inquiétaient pas.
Hmm.
Donc,
je trouve que ça représente bien le dilemme dans lequel toute la population est, au fond.
Oui.
On a envie de reprendre notre vie normale. Il y a tellement d'aspects qui ont repris. Mais en même temps, il y a encore un peu de risque.
Bien, il y a de l'inquiétude.
Il y a même un nouveau risque qui se profile à l'horizon.
Exact. Et en même temps, ils sont un peu le reflet de nos familles. Je ne sais pas si tu as eu ces discussions-là, même auprès des tiens avant Noël, mais on sent qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec la situation, ne sont pas inquiets, et d'autres qui sont un petit peu plus réticents.
Ben oui,
qui ont encore peur.
Ne veulent même pas accepter dans les fêtes de famille des gens qui ne sont pas vaccinés.
Exact. Hein? Il y en a d'autres qui ont juste pas vu, ils veulent pas voir personne.
Oui, c'est vrai. Hey, merci infiniment, Nicolas. On te souhaite une belle fin de semaine. Puis à très
gentil.
Bientôt à La Haut sur la Colline.
Salut.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
Cube Radio.